L'atome de savoir sur Radio Campus Paris. On parle de science sans en faire un fromage.
13 novembre 2021, triste anniversaire des attentats de Paris. Les rescapés du Bataclan n'imaginaient pas que 6 ans plus tard, ils pourraient assister au procès sans être présents dans la salle d'audience. Et pourtant, c'est bien 900 accès distants qui ont été distribués par la cour d'appel de Paris, permettant à plusieurs parties prenantes d'écouter les séances depuis chez elles. Une première au pays des droits de l'homme qui a eu des retombées positives sur les victimes, leurs proches et le procès. Nous aurons l'occasion d'en reparler ce soir avec nos deux invités. Bonsoir Laurence Dumoulin.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS et directrice de PACT, le laboratoire de sciences sociales à Grenoble, et vos recherches se concentrent sur la sociologie politique du droit, la justice et l'action publique. Nous recevons aussi Jacques Lévy-Véel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRIA et fondateur de Caselou Analytics, un outil de quantification d'aléas judiciaires. Alors ensemble, nous allons décrypter les innovations dans le domaine judiciaire jusqu'à 21h. Et tout à l'heure, nous allons prendre le pouls de la sphère scientifique. Et en fin d'émission, c'est Simon qui nous parlera de philosophie des sciences. Mais pour commencer, je vous présente Jade, qui a fait pour nous le point sur les technologies utilisées dans le monde judiciaire.
Lorsque je suis arrivée pour mon premier stage en cabinet d'avocat, je me rappelle avoir été surprise par le nombre de dossiers papier que le cabinet contenait. Du sol au plafond, toutes les affaires étaient imprimées et rangées dans des porte-dossiers de couleurs différentes. Alors je vous rassure, l'avocate avec qui j'étais utilisait bien un ordinateur. Mais je dois avouer que j'ai eu l'impression de revenir 20 ans en arrière.
Bon Jade, c'est pas une grande nouvelle que le milieu du droit a des réticences vis-à-vis de la technologie.
Je te trouve vraiment de mauvaise langue, Gaspard. Je te signale que depuis une loi du 15 novembre 2001, le droit pénal permet d'utiliser la technologie de la vidéoconférence et plusieurs lois ont eu une volonté de moderniser la justice et de la rendre plus digitale. Une des lois les plus importantes dans ce sens est la loi du 23 mars 2019, loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cette loi propose un panel de mesures qui rendent la justice plus digitale. Par exemple, elle met en place la dématérialisation du dépôt de plainte. Le but de cette loi de modernisation et de numérisation est aussi de rendre la justice beaucoup plus accessible pour les justiciables.
Eh bien d'accord, je n'imaginais pas que les nouvelles technologies étaient intégrées à la justice depuis si longtemps, notamment la visioconférence.
Et oui, il est possible de recourir à la visioconférence depuis longtemps déjà, que ce soit au civil ou au pénal. Bien sûr, ces pratiques sont encadrées et ne sont pas utilisées à tout moment. Dans le procès pénal, elle va être utilisée lorsque les personnes impliquées dans la procédure sont loin, et du coup, elle permet d'entendre des témoins, des parties civiles ou des experts. Mais attention toutefois, le procès a toujours lieu en présentiel, même si la Covid-19 a grandement bouleversé et accéléré les choses. Au début du premier confinement, le gouvernement a fait passer une ordonnance qui, entre d'autres mesures, généralisait le recours à la visioconférence pour le procès pénal. Cependant, dans une décision du 19 novembre 2020, le Conseil constitutionnel s'est exprimé sur la conformité de cette ordonnance à la Constitution et a déclaré que le procès pénal ne pouvait se tenir entièrement à distance parce que cela porterait une atteinte au droit à un procès équitable. Quelques mois plus tard, en novembre 2020, le garde des Sceaux a demandé l'adoption d'une ordonnance qui permettrait de recourir à la visioconférence lors de la dernière partie des procès en assises. Les assises sont les juridictions pénales chargées de juger les crimes les plus graves. Beaucoup d'avocats et de magistrats se sont opposés à ce texte. Ailleurs dans le monde, la dématérialisation prend aussi place. En Chine, par exemple, les procès sont en partie dématérialisés en ligne sur la plateforme WeChat.
Mais alors, quelle sera la prochaine étape? Connaître l'issue de son procès grâce à l'intelligence artificielle?
Alors, tu n'es pas si loin, Gaspard. Même si tu présentes là une version romancée de la réalité, on ne donne pas aux professionnels du droit une boule de cristal dans laquelle ils vont pouvoir voir le futur et l'issue du litige. La justice prédictive, ou quantitative, correspond à un ensemble d'instruments développés grâce à l'analyse de grandes masses de données juridiques, qui propose notamment à partir d'un calcul de probabilité, de prévoir autant qu'il est possible l'issue d'un litige, ou plutôt, de quantifier le risque juridique. Cette technologie s'appuie sur l'intelligence artificielle et est pour le moment réservée aux professionnels. En France, plusieurs startups développent ces outils. Les deux principales sont Predictis et Caselou Analytics, dont un des fondateurs est avec nous aujourd'hui. Les deux entités n'abordent pas le problème de la même façon. Predictis estime offrir une vision chiffrée du contentieux à ses clients. L'outil calcule des probabilités de résolution d'un litige et estime le montant des indemnités susceptibles d'être obtenues. Et je laisserai le soin à Monsieur Lévy-Véel de nous expliquer le fonctionnement de Caselou Analytics. La justice prédictive permettrait d'assurer une certaine sécurité juridique parce qu'on réduirait l'aléa judiciaire et on harmoniserait la jurisprudence. Toutefois, certains auteurs mettent en garde contre une certaine dérive de cette justice qui pourrait nuire à l'indépendance du juge, qui se rangerait désormais toujours du côté de l'opinion majoritaire, et par conséquent, un risque pour le droit de stagner.
Vous écoutez l'Atome de Savoir et ce soir nous recevons Laurence Dumoulin, chargée de recherche en sciences politiques au CNRS, et Jacques Lévy-Véel, mathématicien chez Keslo Analytics. D'abord, merci à tous les deux d'être venus. Et pour commencer, je vais vous poser une question à vous, Jacques Lévy-Véel, une question très simple, très basique. Qu'est-ce que c'est Keslo Analytics? Qu'est-ce qu'on fait avec cet outil?
Keslo Analytics, c'est d'abord un projet de recherche qui a été développé au sein de l'INRIA par deux personnes. Un ami à moi qui est magistrat, qui s'appelle Jérôme Dupré, et donc moi-même, donc un magistrat, un juriste et un mathématicien. Et l'idée, c'est d'appliquer les outils de quantification de l'aléa que j'ai développés tout au long de ma carrière au domaine du droit. Voilà. Donc moi, les outils que j'ai développés en tant que mathématicien, c'est des outils qui s'appliquent dans des situations où on a ce qu'on appelle un aléa irréductible, c'est-à-dire que le phénomène lui-même qu'on est en train d'étudier ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas d'aléa. Vous pouvez penser par exemple à la bourse. Si on pouvait savoir exactement où serait le cours de l'action totale demain, en fait, elle n'y serait pas, parce que si tout le monde est sûr qu'elle va monter, ceux qui la vendent ne la vendraient pas, puisqu'ils sauraient qu'elle va monter, ils n'auraient pas intérêt à la vendre. Donc le simple fait qu'il y a des transactions en bourse, c'est qu'il y a des anticipations contradictoires, et donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais une partie des procès ont lieu parce que chacune des parties pense qu'elle va gagner, et dans de nombreux cas, si la partie A était sûre qu'elle allait perdre, ben, elle n'irait pas au procès, on s'arrangera à l'amiable. Donc le simple fait qu'il y ait des procès pour une partie d'entre eux tient au fait qu'il y a un aléa qu'on ne peut pas deviner à l'avance. Voilà, donc dans ce genre de situation, et il y en a beaucoup d'autres, hein, moi j'ai développé des modèles qui ne permettent pas de réduire cet aléa, puisque justement on ne peut pas le réduire, il est consubstantiel au phénomène, mais de le mesurer, c'est-à-dire de mesurer la probabilité de telle ou telle issue. Voilà, donc avec Jérôme, on s'est attaqué à appliquer ces outils au domaine du droit, avec un certain succès, et donc dans la vingtaine ou trentaine de domaines qu'on a modélisés à l'heure actuelle, on est capable de dire, à partir d'éléments factuels, typiquement une centaine d'éléments qui vont caractériser un dossier, quelles sont toutes les issues possibles et les probabilités associées.
Ok, bah c'est déjà plus clair, mais alors juste sur cet aléa judiciaire, quel est son impact sur l'engagement d'un procès? Peut-être que vous voulez réagir d'abord, Jacques Lévy-Véel, et puis ensuite on passe la parole à Laurence Dumoulin.
Alors effectivement, une des motivations principales de Jérôme Dupré, c'était de favoriser les modes alternatifs du règlement. Comme vous le savez, en France, la justice n'est pas très bien dotée. Il n'y a pas que la justice, hein, c'est aussi à la santé, mais en tout cas la justice n'est pas très bien dotée, avec un nombre de juges qui est assez faible par rapport à la moyenne des autres pays européens, ce qui fait que, comme vous le savez aussi sûrement, on peut attendre des fois un an ou deux ans simplement pour une révision de pension alimentaire ou des choses vraiment très basiques. Donc c'est certainement pas une situation agréable pour le justiciable. Donc il y a deux solutions, soit on augmente les moyens de la justice, ça c'est pas entre nos mains, soit on essaye de fournir aux justiciables des éléments qui permettent d'anticiper les issues possibles, donc c'est ce qu'on fait avec Keslo Analytics, et dans ce cas-là, ça fournit une base pour négocier sur des éléments solides, sans léser une des deux parties, parce qu'il arrive souvent qu'une des deux parties ait plus d'informations que l'autre. Je pense par exemple à la réparation du préjudice corporel, où on a une victime en face d'une compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance a évidemment beaucoup plus de moyens que le justiciable. Et donc, assez souvent, 90 à 95% des litiges se résolvent à l'amiable, heureusement. Mais avec Keslo Analytics, on donne au justiciable, ou plutôt à l'avocat du justiciable, plus d'éléments pour étoffer son dossier. Voilà, donc effectivement, c'est un objectif affiché, hein, de réduire la partie procès pour augmenter la partie règlement alternatif. Il faut savoir qu'en France, on n'a pas beaucoup cette culture de règlement alternatif. On l'a beaucoup plus dans d'autres pays. Et c'est certainement une bonne idée de pouvoir régler le litige en dehors du tribunal. Ça va plus vite, ça coûte moins cher, ça libère les juges pour les dossiers qui ont vraiment besoin d'une expertise judiciaire et où on a vraiment besoin d'avoir la parole du juge. Mais ce n'est pas le cas de tous les litiges, heureusement.
Laurence Dumoulin.
Oui, peut-être pour compléter et aller un peu dans le même sens, dans une étude qu'on a faite avec des collègues et pilotée par Cécile Vigour sur la manière dont les citoyens se représentent la justice, on a des résultats qui montrent que finalement les raisons pour lesquelles les citoyens qui pourraient aller en justice ne le font pas toujours ou hésitent à le faire. C'est notamment parce que, effectivement, avant tout, la justice est perçue comme très lente et objectivement, il y a des temps de traitement d'affaires dans certains cas qui sont assez longs. Là aussi, il faut parler de manière variée ou en tenant compte des différents types d'affaires. Mais donc la question du temps, la question de la complexité aussi et du coût au sens du coût financier et du coût aussi psychologique que représente un procès. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que un certain nombre de citoyens qu'on a interrogés ont renvoyé que probablement une manière de régler les litiges qui ne soit pas nécessairement qui ne passe pas nécessairement devant un tribunal au sens classique du terme avec une adjudication, etc., peut dans certains cas, notamment les cas assez de la vie quotidienne, on pourrait dire, pourrait passer par des méthodes de type médiation, conciliation et davantage. Donc oui, c'est un élément. Et puis également pour rebondir sur le fait que on a différents types d'usagers de la justice finalement, et qu'on peut avoir des ce qu'on appelle en sociologie du droit, il y a des joueurs répétés ou des joueurs occasionnels. C'est-à-dire qu'en réalité, une personne qui divorce, par exemple, elle divorce une fois, peut-être deux dans sa vie, mais globalement, elle n'a pas de grande expérience du divorce. Et c'est globalement le cas des personnes divorçantes en général. En revanche, si on est sur d'autres types de litiges, des litiges en matière de droit du travail, par exemple, eh bien là, on peut avoir des acteurs de justice, des usagers de justice qui n'ont pas du tout le même rapport au procès parce que un salarié, c'est pareil, il ne va pas avoir à faire souvent au tribunal des prud'hommes. En revanche, un employeur qui peut être un employeur qui a beaucoup de salariés et des grandes compagnies ont des habitudes et des conventions et dans le rapport à la justice et donc vont contribuer finalement, vont intégrer la manière dont les décisions de justice sont rendues dans leur mode de fonctionnement. Mais de ce point de vue-là, c'est un élément en fait d'inégalité structurelle dans le jeu de la justice.
Mais alors, Laurence Dumoulin, comment la justice prédictive impacte-t-elle les juges dans leur prise de décision ? Est-ce qu'on a des données là-dessus ?
Je suis désolée parce que le terme justice prédictive ne me semble pas toujours le plus adapté pour réfléchir, parce que quand on dit justice prédictive, on a tendance à penser que en réalité on pourrait prédire les décisions de justice. Or, ça a bien été expliqué par Jacques Lévy-Véel, dans le fait même de rendre justice, il y a une forme d'aléa, et donc du coup la prédiction n'est pas vraiment le terme adapté. Et d'ailleurs, dans la littérature, il y a beaucoup de débats autour de la manière de qualifier finalement ces dispositifs algorithmiques de traitement et d'analyse des décisions de justice qui pour certains, ont pu être qualifiés de justice algorithmique, de justice quantitative, de justice prédictive et d'autres termes. Donc voilà, le premier point pour répondre à cette question, c'est de dire que peut-être que réfléchir en termes de justice prédictive, c'est parfois un peu réducteur.
Nous dirons alors aléa judiciaire.
Oui, par exemple. Enfin, je laisse peut-être Jacques Lévy-Véel dire ce qu'il en pense, mais moi, de mon côté, effectivement, il me semble que, enfin, dans les recherches que j'ai faites, dans un article que j'ai coécrit avec Christian Licop, on les qualifie. Alors, c'est un peu long et on s'en excuse, mais de dispositifs algorithmiques de traitement et d'analyse des décisions de justice. pour précisément restituer cette épaisseur-là, cette complexité-là que peuvent avoir ces dispositifs qui ne font pas tous la même chose, qui n'ont pas les mêmes, qui ne sont pas appuyés sur les mêmes, outils technologiques exactement. Donc effectivement, peut-être l'aléa judiciaire peut convenir. Jacques Lévivel, je ne sais pas.
Je suis d'accord à 100% avec ce que vous venez de dire, Laurence. Et c'est ce que, comme vous l'avez dit, c'est ce que j'essaie d'expliquer au début. Il ne s'agit pas du tout de prédire, il n'y a rien à prédire. Il s'agit de représenter l'aléa. Et la manière dont, enfin, l'expression que vous utilisez me paraît complètement adaptée. Oui, à part qu'elle est un peu longue pour malheureusement l'utiliser tout le temps, mais c'est exactement comme ça qu'il faut le décrire. Bon. Et on sait très bien d'où vient l'aléa, hein, donc il n'y a pas tellement de mystère là-dessus.
Bon, très bien, c'est une précision qui effectivement a son importance. Alors on appellera maintenant un chat dans la suite de cette émission. Alors Laurence Dumoulin, je vous refais la question. Comment des outils tels que Caseflow Analytics pourraient-ils impacter la décision d'un juge ?
Alors, en réalité, pour l'instant, donc sur cet aspect-là, j'ai des recherches en cours, je vous le disais, avec Christian Licop, mais pour lesquelles on ne peut pas dire qu'on a des résultats. Hein, donc, ce qu'on peut dire, c'est que il y a dans la littérature un certain nombre d'effets possibles qui sont envisagés. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'analyse de littérature qu'on a faite, on s'est rendu compte que, quand même, globalement, dans le monde du droit, la manière de se représenter ces dispositifs-là, c'est plutôt en termes de potentialité et de risque. C'est-à-dire que, globalement, on se représente plutôt ces dispositifs soit comme des opportunités, soit comme, j'allais dire, des dangers qui pourraient menacer certains aspects du système juridique et judiciaire français, et puis des potentialités qui sont, elles, parfois également surévaluées, parce que pour ce type de technologie, comme pour d'autres sur lesquels j'ai pu travailler, que ce soit la vidéosurveillance, par exemple, ou la visioconférence, globalement, les discours ont tendance à se polariser autour de justement une vision soit enchantée, soit au contraire catastrophiste. Et je dirais que pour l'instant, en tant que sociologue, moi, je n'ai pas les éléments pour dire quels sont les impacts, parce qu'en fait, il n'y a pas encore eu des études sur la manière dont les professionnels, donc par exemple les avocats, les juristes de grandes entreprises dans des directions juridiques, s'approprient ces outils et la manière dont ils les utilisent.
Jacques Lévivel, étant donné que la jurisprudence est importante, qu'en est-il pour les nouvelles lois ? Comment des outils tels que le vôtre intègrent au fur et à mesure les nouveaux concepts de la justice ?
Oui, merci, c'est une très bonne question. Je voudrais juste, si vous permettez, rebondir encore sur ce que vient de dire Laurent. Alors effectivement, on n'a pas encore assez de recul pour savoir quel sera l'impact. Et je rejoins totalement Laurence quand elle dit que cette dichotomie potentiel risque. Il y a aussi une forte méconnaissance de ce dont il s'agit. Et aussi des discours marketing parfois de certaines égaltech qui font qu'on prétend des choses qui sont correspondent pas à la réalité, il y a énormément de fantasmes, et donc ça n'aide pas énormément. Alors toutefois, il y a quand même des gens, dont en particulier Laurence et son équipe, et Christian Licop, qui font des travaux là-dessus, et il y a aussi d'autres initiatives qui sont intéressantes, qui sont des expériences. Donc par exemple, le professeur Étienne Vergès fait des expériences sur comparer ce qui se passe quand on donne un dossier à des magistrats, et une partie des magistrats, on leur donne en plus le résultat de Caseflow Analytics. Comment est-ce que ça impacte leurs décisions? Donc, c'est des recherches qui sont en cours, qui seront publiées prochainement parce que l'expérience est terminée. Et donc là, on aura des éléments pas complètement objectifs parce que c'est dans le cadre d'un exercice. Si on voulait être complètement objectif, il faudrait mettre ces outils à disposition d'une juridiction pendant 6 mois et après mesurer la différence. Là, c'est quand même dans le cadre d'un exercice, mais ça donnerait quand même une indication et on pourra avoir des vraies réponses. Et en attendant, c'est vrai que c'est difficile de s'avancer. Et alors du coup, excusez-moi, j'ai oublié la question.
Oui, c'était comment des outils tels que le vôtre intègrent les nouveaux concepts de la justice au fur et à mesure qu'ils sortent, enfin, comment ils intègrent les nouvelles lois.
Ce qu'on fait chez Caseflow Analytics, c'est qu'on regarde le droit, enfin en tout cas la partie judiciaire du droit, comme si c'était un phénomène naturel, comme si on regardait le mouvement des planètes ou une épidémie qui se développe, et on en recueille des signaux, et à partir de ces signaux, on essaie de faire un modèle de comment ça marche à l'intérieur. Voilà, donc pour nous, les signaux, c'est les décisions de justice, qu'on appelle aussi jurisprudence. Donc on observe toute la jurisprudence qu'on peut avaler, et à partir de là, on fait des modèles mathématiques qui essayent de comprendre comment les magistrats prennent leurs décisions. Voilà, donc c'est une approche qui est assez standard en sciences. Hein. Il y a plein de phénomènes qu'on ne peut pas étudier autrement qu'en observant leur manifestation extérieure. Voilà, et donc en droit, c'est un peu nouveau parce que le droit, il est fabriqué par les humains, donc on pourrait aussi regarder les lois, la doctrine, etc. Et c'est ce que font les juristes. Voilà, le point de vue de scientifique, de mathématicien ou d'ingénieur de sciences des données, c'est plus de partir des données. Et c'est une approche qui est assez féconde, même quand on doit étudier des phénomènes qui sont créés par les humains, comme par exemple, avant de travailler dans le domaine du droit, j'ai travaillé dans le domaine de l'ingénierie du trafic sur Internet. Ben, le trafic Internet, il a été créé par des ingénieurs qui ont mis en place des protocoles, mais après, ça devient tellement compliqué avec des milliards de messages qui sont échangés ou des milliards de pages web qui sont vues à chaque instant que connaître comment ça a été fabriqué, ça ne sert à rien. Il vaut mieux regarder les signaux, c'est-à-dire les traces de trafic, pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est un petit peu la même idée en droit. Alors donc, à ce titre-là, votre question elle est vraiment très pertinente. Nous, c'est très important qu'on soit au courant des cassures ou des évolutions. Donc, il peut y avoir une cassure dans nos données quand, effectivement, il y a une nouvelle loi. Par exemple, le premier module qu'on a développé, c'est sur les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et c'était justement à la demande du cabinet d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie et qui voulait plafonner ses indemnités, ce qui a été fait quelques années plus tard. Donc, si à un moment on plafonne les indemnités, évidemment, les juges, même s'il y en a qui font de la résistance, mais ils ne prendront plus les mêmes décisions. Donc, il y a une rupture dans les données dont il faut qu'on tienne compte. Il peut y avoir aussi des revirements de jurisprudence. Et puis, il y a toujours, enfin presque toujours, dans beaucoup de domaines, des évolutions lentes de la jurisprudence. Donc, c'est vraiment important qu'on les prenne en compte. C'est assez simple, hein, on fait une veille. Chez Question Éthique, il y a surtout des juristes spécialisés dans chaque domaine du droit. Et donc, on est à l'affût des nouveautés. Et à part ça, c'est les données elles-mêmes qui vont nous prévenir que, ben, par exemple, sur le domaine de la réparation du préjudice corporel, depuis à peu près 5 ans, chaque année, le montant qui est donné au titre de l'assistance tierce personne augmente presque de 1 euro chaque année. Donc ça, tous les professionnels sont à peu près conscients, mais ce n'est pas mesuré. Et nous, on peut le mesurer à partir de nos données. Et les modèles prennent ça en compte pour quantifier le risque dans le futur.
Laurence Dumoulin, dans la même veine, est-ce que des outils tels que Caselo Analytics peuvent permettre de faire évoluer le droit ou est-ce qu'au contraire, ils risquent de le figer, de figer l'évolution du droit ?
Oui, alors c'est quelque chose qui a été évoqué dans les débats autour de ce type d'outils, avec le raisonnement qui consistait à dire à partir du moment où les décisions de magistrats seraient prises sur la base d'outils algorithmiques qui eux-mêmes reposeraient sur des décisions passées, on pourrait avoir un effet finalement de fossilisation, c'est-à-dire de reproduction en réalité de décisions du passé. C'est un argument qui a été donné notamment dans l'ouvrage d'Antoine Garapon et Jean Lassègue qui se prolonge autour d'un autre argument qui est un argument qui consiste à dire que d'une certaine manière cet appui sur des décisions qui sont donc des masses de données aurait pour effet de désymboliser le droit au sens où ce ne serait plus le droit et donc les normes qui sont contenues dans les textes qui prévaudraient, mais ce serait finalement des calculs mathématiques sur des données issues de décisions de justice, mais qui donc s'appuient beaucoup sur des faits, en fait, sur des éléments factuels au sein de la décision prise, hein, puisque toute décision de justice, c'est en fait la rencontre entre à la fois des règles générales et des circonstances et conditions particulières propres précisément à l'affaire qui est examinée. Donc, c'est effectivement des arguments qui ont beaucoup été développés. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que les débats sont beaucoup autour des risques et des potentialités, c'est-à-dire que, mais qui ont pour point commun d'être finalement très générique ou très à des degrés de généralité très élevés, alors même que pour des dispositifs algorithmiques, il convient, et pour des technologies en général, il convient vraiment d'aller voir ce qu'il y a dans la boîte noire, c'est-à-dire que un dispositif d'une start-up, d'une legal tech, n'équivaut pas le dispositif ou l'outil proposé par une autre legal tech. Il y a des spécificités et en fait, à raisonner en toute généralité, on gomme ces spécificités, d'une part, et puis d'autre part, on s'inscrit aussi dans une vision très déterministe du point de vue des technologies, c'est-à-dire comme si aussi l'implicite, c'est que de toute façon, une sorte de prophétie autoréalisatrice, de toute façon, ça va se développer. Or, là encore, et c'est un peu le propos des sociologues, des chercheurs de sciences sociales, c'est de dire il faut aller voir dans le détail, très précisément, comment ces outils sont conçus, comment ils fonctionnent et comment ils sont appropriés, quels en sont les usages. Et c'est seulement avec tous ces éléments qu'on pourra avoir des propos vraiment fins et vraiment pertinents sur les effets. Mais évidemment, ça prend du temps. Et c'est beaucoup moins facile que d'annoncer des grandes généralités.
Merci Laurence Dumoulin. Et on comprend bien effectivement d'une part l'intérêt d'un tel outil pour les professionnels du monde judiciaire et d'autre part les répercussions que ça peut avoir sur les judiciables. Alors une question pour vous maintenant Jacques Lévy-VL. Est-ce qu'on sait combien ça va coûter pour l'avocat et comment ça va se répercuter sur le judiciable, l'utilisation de Case Law Analytics ?
Oui, bien sûr. Enfin, moi, je sais combien coûte notre outil. Là, c'est pas le lieu peut-être d'en parler. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un outil qui est issu de la recherche publique, qui a été créé donc par un magistrat et une personne qui a fait toute sa carrière comme chargé ou directeur de recherche dans l'institut de recherche publique. Et donc, la création de questions éthiques, c'est une manière de rendre à la société tout ce que la société nous a donné via l'INRIA. Et donc, c'est pour ça que c'est un outil où les tarifs sont étudiés pour que jamais le prix soit un frein, et que donc tout avocat en France, ou tout juriste professionnel, c'est un outil qui est réservé aux juristes, hein, pas aux justiciables, pas au grand public, parce qu'il est assez technique, donc tout avocat ou tout juriste professionnel peut largement l'utiliser, c'est jamais un frein l'aspect financier.
Laurence Dumoulin, est-ce que vous pensez qu'un outil tel que Case Law Analytics pourrait un jour se démocratiser auprès des particuliers sous la forme d'une plateforme en ligne ou autre ?
D'abord, tout dépend de la manière dont les acteurs des legal tech vont eux-mêmes concevoir leurs produits et vont imaginer les développer ou pas à destination du grand public, des justiciables. Et là, on peut imaginer qu'il y ait des stratégies différentes de la part des différents acteurs économiques présents sur le marché. C'est un point dont il faut tenir compte. Par ailleurs, ce qu'on sait déjà, c'est qu'on a des plateformes en ligne de règlement des conflits et que ces plateformes en ligne, elles peuvent associer des éléments d'information des justiciables. Je pense que Jacques pourra rebondir là-dessus, mais il me semble qu'un des éléments, c'est effectivement la manière dont des plateformes en ligne vont associer éventuellement des outils algorithmiques d'analyse des décisions de justice avec des dispositifs de traitement de la décision au sens de prise de décision, que ce soit à travers des médiations en ligne, à travers différents types de dispositifs qui existent déjà.
Merci à tous les deux. Je vous propose de reprendre notre conversation un peu plus tard, car il est l'heure de prendre des nouvelles de notre meilleure copine ici à l'Atome de Savoir. Il s'agit bien sûr de la science que Jade est allée voir ce mois-ci.
L'Atome de Savoir sur Radio Campus Paris.
Et la première nouvelle, Gaspard, tu as sûrement dû l'avoir passée sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une photo qui a monopolisé les fils d'actualité pendant quelques heures. Parce que oui, le télescope James Webb a réussi à prendre sa première photo nette et claire. Alors, juste pour vous rappeler ce qu'est le télescope James Webb, il s'agit du plus avancé d'un point de vue technologique et du plus onéreux télescope spatial. Il avait été lancé dans l'espace le 25 décembre dernier, et depuis, les ingénieurs de la NASA le calibrent pour pouvoir l'utiliser. La semaine dernière, ils ont réussi à aligner les miroirs et l'on a pu obtenir une photo d'une étoile avec une galaxie en arrière-plan. Même si cela semble facile dit comme ça, il faut savoir que le miroir principal fait 6,5 mètres de large et qu'il est composé de 18 segments hexagonaux qui s'auto-assemblent dans l'espace. Ce qui requiert une précision à l'échelle nanométrique. Les scientifiques déployés sur ce projet ont été soulagés du bon déroulement de l'opération. À terme, l'objectif de ce télescope est de nous aider à comprendre l'origine de l'univers et notre place dans celui-ci. Un projet, ma foi, gargantuesque. Après être allé explorer le très très grand, je vous propose de passer à une toute autre échelle et de parler d'ADN environnemental. En janvier 2022, deux équipes de chercheurs indépendants avaient réussi à capter et à séquencer l'ADN contenu dans l'atmosphère. Cette expérience avait été menée dans un zoo en intérieur et grâce à l'air récolté, les chercheurs avaient pu recenser les différentes espèces présentes. Le 11 mars, des chercheurs de l'université de Lund, en Suède, ont publié des résultats qu'ils ont obtenus en faisant la même tentative, mais cette fois-ci en milieu ouvert. Ils sont allés dans une forêt suédoise et ont aspiré et filtré l'air ambiant. Pour une première, ils ont centré leur recensement sur des insectes, en utilisant en parallèle des protocoles plus classiques. Grâce à l'ADN contenu dans l'air, ils ont pu décompter 75 espèces différentes d'insectes. Ce séquençage permettrait des avancées folles. Seuls quelques litres d'eau suffiraient pour déterminer toutes les espèces qui vivent dans un lac. Toutefois, les scientifiques mettent en garde. Il reste des failles dans la technique, notamment en milieu totalement ouvert. Les résultats sont beaucoup plus parlants et probants dans des milieux contrôlés comme des grottes. Pour finir ce tour d'actualité scientifique, je vous propose de nous tourner du côté de l'industrie. La société ArcelorMittal a inauguré le 21 mars à Dunkerque un démonstrateur de captage carbone à l'échelle industrielle. Il s'agit d'une tour de 22 mètres de haut qui a pour objet de capturer le carbone directement dans les cheminées de l'usine. Il s'agit là d'une des solutions apportées par l'entreprise pour limiter ses émissions de CO2. En plus de recycler l'acier déjà existant, elle a mis en place ce piège à carbone pour limiter sa propre émission de CO2. Une fois le carbone piégé et stocké, il sera déplacé pour ensuite être enfoui sous terre. Moins de carbone sera relâché dans l'atmosphère, sachant que la production d'acier est très polluante. Grâce à cette technique, la société souhaite réduire ses émissions de 8% et avec toutes les autres mesures mises en place, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais, parce que oui, il y a un mais, cette solution n'est pas une solution miracle et ne permettra pas de sauver la planète. Et voilà, c'était tout pour ce mois-ci, on se retrouve le mois prochain.
L'atome de savoir, vous en reprendrez bien une part ?
Bienvenue, si vous nous rejoignez ce soir, nous parlons de la place de la technologie dans la justice avec Laurence Dumoulin, chargée de recherche en sciences politiques au CNRS, et Jacques Lévy-Véel, mathématicien chez Keslo Analytics. Alors tout à l'heure, nous parlions des changements en amont du procès avec notamment des outils comme Keslo Analytics. Je vous propose maintenant de parler de la mise en place concrète de ces technologies et des évolutions que cela va engendrer. Alors, pour commencer, une question qui est un peu sensible, on l'a entendu au début de l'émission, je vous la pose à vous, Jacques Lévy-Véel. Quelle est l'agilité du monde du droit à suivre les évolutions technologiques ?
Alors, ma position a radicalement évolué il y a ces derniers mois, en fait, si vous m'aviez posé la question au printemps dernier, par exemple, j'aurais fourni une réponse très différente. Compte tenu du fait que les juristes ont quand même une culture extrêmement différente de celle des scientifiques ou des gens qui font des nouvelles technologies, et c'est vrai que c'est pas général, mais assez souvent, ceux qui vont en fac de droit, c'est parce qu'ils aiment pas les maths, il faut pas se le cacher, et que c'est un milieu très traditionnaliste. Finalement, je trouve qu'ils ont quand même été assez agiles. J'ai évolué là-dessus. On est arrivé, nous, Question Éthique, il y a à peu près 4 ans, un peu plus de 4 ans, avec des outils radicalement différents dans la manière de penser de ce qu'ils font d'habitude. Ils ont une approche très artisanale où, pour chaque dossier, on recommence tout à zéro et on suit toutes les étapes et tout. Alors que quand on fait de l'informatique ou des mathématiques, un mot-clé, c'est factorisation. Tout ce qui peut être généralisé, on le fait. Donc déjà, c'est une approche très différente. Et comme l'a très bien dit Laurence tout à l'heure, il y a un aspect machine qui peut aussi désacraliser l'activité judiciaire ou juridique en général. Il y a eu beaucoup de résistance au début, en partie idéologique, mais je trouve que au jour d'aujourd'hui, il y a quand même une majorité de juristes dans toutes les professions qui se sont saisis de ces outils, qui en ont compris le potentiel, et pour certains qui sont à la pointe, qui comprennent, non seulement qui comprennent, mais qui suggèrent des améliorations. Donc je dirais que c'est plutôt bien. Moi, je suis plutôt content de la réaction des juristes et impressionné.
Donc finalement, on pourrait dire que c'est un milieu qui était un peu réticent par le passé à la technologie, mais qui aujourd'hui, lui aussi, est en pleine évolution, comme la plupart des milieux et la plupart des sujets dont on parle ici, dans l'atome de savoir. Et un autre type de technologie dans le monde judiciaire qu'on n'a pas encore abordé, Laurence Dumoulin, c'est le procès en visioconférence. Alors, peut-être que la pandémie a eu un impact sur le procès en visioconférence. Est-ce que vous avez des données là-dessus ?
Alors, effectivement, c'est indéniable que la pandémie a eu des effets d'accélération en fait du recours à la visioconférence pour des procès. Jade l'a bien souligné tout à l'heure avec des ordonnances qui ont été prises pour permettre en réalité dans un contexte où notamment au moment du premier confinement dur où il a bien fallu trouver des solutions pour que quand même on puisse avoir une activité de justice, notamment pour les affaires les plus urgentes ou pour lesquelles il y avait des questions de délai hein, qui sont très importantes sur un plan juridique, le respect des délais. Donc, il a bien fallu trouver des solutions d'aménagement du fonctionnement de la justice. Pour répondre très concrètement à votre question, je n'ai pas de données sur la quantité d'audience par visioconférence. Ce qui est certain, en revanche, c'est que dans des formations que j'ai pu faire, j'ai rencontré des avocats qui me disaient que, alors qu'ils n'avaient jamais utilisé la visioconférence auparavant, l'ont utilisé à l'occasion de la pandémie. Donc, je pense qu'il y a eu un effet quand même d'augmentation qui resterait bien évidemment à mesurer. Et cela étant dit, là encore, ça a été précisé par Jade en introduction, il ne faudrait pas pour autant penser que la justice, finalement, a découvert la visioconférence avec la pandémie. En réalité, les premières audiences par visioconférence datent de la fin des années 90 en France. Et en Europe, c'est un tout petit peu plus tôt, et aux États-Unis, c'est les années 70. Donc en fait, les premières audiences. Hein. Donc en fait, l'outil visioconférence, il est présent dans les institutions de justice depuis fort longtemps. Ça surprend généralement quand on dit que le premier texte, par exemple, qui en France autorise l'utilisation de la visioconférence, c'est pour des visio-audiences entre Paris et Saint-Pierre et Miquelon, et c'est une ordonnance de 1998. Et le premier procès a eu lieu en 2000, et, entre Saint-Pierre et Miquelon et la Cour d'appel de Paris. Et sur un autre plan, on a pu retrouver, dans la recherche que j'ai menée avec Christian Nicop sur justement les politiques de développement de la visioconférence, on a pu retracer que le premier visio-interrogatoire, si j'ose dire, date de mai 2020, de mai 2000, je dis bien 2000, et que donc il y avait déjà une installation de la visioconférence qui toutefois a connu une vraie montée en puissance à partir des années 2006-2007 avec une politique volontariste de développement de la visioconférence. Et puis, je pense que parmi les étapes importantes, la pandémie a représenté, et le contexte sanitaire ont représenté une autre étape tout à fait importante dans le développement de la visioconférence.
Puisque ces procès en visioconférence sont en plein développement et qu'il y a du monde qui a pu les tester aujourd'hui, comment ils sont accueillis par les professionnels de la justice ? Est-ce qu'il y a des réticences, des oppositions, Laurence Dumoulin ?
Oui, alors en réalité, C'est vrai, et Jacques le disait tout à l'heure, le milieu de la justice n'est pas le milieu le plus ouvert aux technologies, au sens celui qui est le plus en affinité avec, avec les technologies. Et, mais pour autant, le développement, par exemple, de la visioconférence a été porté par des acteurs, par certains acteurs, magistrats, avocats, greffiers, qui étaient favorables, voyaient des avantages au développement de la visioconférence et qui se sont appuyés évidemment sur d'autres acteurs à un niveau en administration centrale. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la visioconférence a suscité des oppositions importantes au sein de la justice. Mais pourquoi a-t-elle suscité ces oppositions? Probablement aussi parce qu'il n'y a pas eu de travail autour d'une culture de l'utilisation de la visioconférence et d'une culture de comment bien utiliser la visioconférence pour une activité, le procès, l'audience, qui est une activité qui, par définition, dans notre histoire et dans notre façon de penser le procès, est fondée sur l'unité de lieu, de temps et d'action. Et donc, c'est le procès, l'audience et la coprésence en audience, c'est quelque chose qui est fondamental dans la définition même de l'audience et de ce qu'on y fait. Et le développement de la visioconférence, à partir, je le disais tout à l'heure, de 2006-2007, avec une politique très volontariste de systématisation d'utilisation de la visioconférence, notamment dans le cadre de la limitation des frais liés aux escortes, c'est-à-dire que je suis obligée de faire une toute petite parenthèse, mais pour avoir, comment dirais-je, pour économiser des moyens humains, que sont les personnes qui accompagnent les personnes détenues pour aller jusqu'en audience, et notamment dans des contentieux comme le contentieux de la détention, pour lequel, bah, par définition, ce sont des personnes qui sont détenues, donc il faut les extraire, et donc il faut deux personnes, un véhicule, etc. Eh bien, l'enjeu, enfin, un certain nombre d'acteurs, au niveau du ministère de la Justice, mais aussi du ministère de l'Intérieur, se sont dit, bah, finalement, on pourrait utiliser la visioconférence puisque les juridictions ont déjà des dispositifs. Il y a eu un équipement massif des juridictions, une circulaire, un ensemble de textes assez incitatifs d'abord, puis plus contraignants à l'utilisation de la visioconférence, sans qu'il y ait à côté, j'allais dire, la réflexion et l'accompagnement de ce qu'impliquait d'un coup, pour des magistrats qui avaient toujours eu affaire et des avocats qui avaient toujours eu affaire à des personnes en coprésence, ou la plupart du temps, d'un coup, de devoir, d'une part, gérer une audience à distance, c'est-à-dire le contact de la personne, l'avoir à distance, donc perdre des éléments qu'on a habituellement en coprésence, hein, sur les attitudes et puis tout le langage non-verbal, et puis aussi pour gérer au sens, comment dirais-je, utiliser la télécommande de la caméra, gérer tous les aspects techniques qui, en réalité, demandent à s'apprendre et, dans un contexte d'audience, sont très stressants, créent un surcroît, une surcharge cognitive en situation. Et tout cela n'a pas été vraiment anticipé, n'a pas vraiment été accompagné. Et c'est ce qui explique, en partie, qu'il y ait eu des oppositions, des résistances très fortes, avec aussi un argument qui consiste à dire, pour certains, qu'il est important pour certaines audiences qu'elles aient lieu en coprésence, parce que il fait partie de l'exercice de la justice que d'être d'humain à humain, d'avoir une relation d'être humain à être humain, et que l'écran ne favorise pas cela pour des décisions qui sont pourtant des décisions qui touchent, qui ont des conséquences importantes sur le sort des personnes.
Alors justement, est-ce qu'il existe des biais liés à la distance ou à l'écran interposé qui ont impacté l'issue d'un procès ou qui peuvent impacter l'issue d'un procès, Laurence Dumoulin ?
Oui, alors en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le dispositif de visioconférence, par nature, il transforme le cadre de l'échange interactionnel, c'est-à-dire l'interaction, la manière dont les personnes interagissent entre elles et dont elles vont accomplir une activité entre elles, en l'occurrence une audience. Je dis c'est intrinsèque au dispositif, et c'est-à-dire que on peut avoir les dispositifs les plus sophistiqués, on peut avoir tout l'accompagnement qu'on veut, toute la gestion du changement auprès des professionnels. Dans tous les cas, il reste des éléments qui sont propres à la visioconférence. Par exemple, l'interaction, elle est plus fragile aux incidents techniques. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de visioconférence, la visioconférence risque pas de tomber en panne. Quand c'est une visioconférence et qu'il y a un problème de connexion, d'image, de son, etc., que fait-on ? Ça, c'est des cas très concrets qu'on a pu observer avec Christian Licop. Que fait-on en cas d'incident ? En réalité, cela n'avait pas été anticipé. Et donc, les participants de l'audience se sont retrouvés en situation où ils devaient d'eux-mêmes décider quoi faire et donc produire des normes. Sur, par exemple, un morceau d'audience pour lequel, pendant un moment, on n'entend plus quelqu'un, ou pour lequel, par exemple, la personne qui est cadrée, qui apparaît à l'écran, n'est pas la personne qui parle, est-ce que ça, est-ce que c'est encore valide ? Ces questions-là n'avaient pas été traitées en amont, elles ont dû être traitées en cours de route. Mais du coup, ce qui est intrinsèque aussi à la visioconférence, c'est qu'il y a un champ et un hors-champ. Et donc, on ne sait pas, par définition, par nature, on ne sait pas ce qui est hors cadre. Or, ça peut avoir des effets juridiques tout à fait importants. Donc ça, au sens où une personne qui ne devrait pas être là peut être là. Donc, ça, c'est des éléments qui font partie de ce que la visioconférence produit. Et évidemment, je l'évoquais tout à l'heure, qui dit visioconférence dit caméra, dit réglage de l'image, zoom, pas zoom, mouvement de caméra. Et donc, tous ces éléments-là, ils orientent le regard. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que la visioconférence serait manipulée par des personnes mal intentionnées. Hein. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste de dire que ça fait partie du dispositif. Et donc, y a des effets qui sont intrinsèques au dispositif et qui sont de plus observables. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait des observations et des filmages, exceptionnellement, on a eu l'autorisation de filmer des audiences et pour les buts de notre recherche. Et en fait, on a pu constater effectivement toutes ces difficultés et la manière dont elles devaient être réglées en situation. Ce qui ne veut pas dire, je m'empresse de le dire, que la visioconférence ne soit, comment dirais-je, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas pertinente en tout lieu et en tout temps pour la justice et pour les audiences simplement il y a des effets et il convient du coup que les acteurs de la justice se mettent d'accord entre eux sur les nouvelles normes à produire pour permettre que les audiences par visioconférence se passent de manière convenable selon leur propre vision et leurs propres normes. Une convention peut être, à l'ouverture de l'audience, d'ouvrir sur un plan large pour permettre que tout le monde voit qui est là et ensuite resserrer sur les personnes qui parlent, ce qui peut permettre à la personne sur le site distant de mieux voir, de mieux comprendre qu'elle est en situation d'audience.
Mais alors, un dernier point avec une dimension technique. Normalement, la plupart des procès se déroulent en public. Et comment on gère le déroulement d'un procès en public lorsqu'on est en distanciel, Laurence Dumoulin ?
Ça, c'est une vraie question et c'est un vrai angle mort dans ce que nous, on a pu constater. On a travaillé en particulier avec Christian Licop sur des audiences devant les chambres de l'instruction, donc qui sont des chambres qui traitent justement du contentieux de la détention dont je parlais tout à l'heure. Et dans le cadre du contentieux de la détention, donc on a deux sites qui sont très très hétérogènes puisqu'ils sont mis en contact, en connexion avec la visioconférence. On a un site qui est dans un tribunal, c'est la salle d'audience. Et puis, on a un autre site qui est un établissement pénitentiaire. Et donc, cet établissement pénitentiaire, il est soumis à des règles propres qui font qu'on ne va pas pouvoir, et en tout cas, c'est ce qu'on a constaté, on ne va pas pouvoir faire entrer du public dans l'établissement pénitentiaire. Et nous-mêmes, par exemple, c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir assister à des audiences côté établissement pénitentiaire que côté tribunal. Et donc, vous voyez que ce que ça produit, c'est en réalité une audience pour laquelle la publicité ne s'exerce pas de la même manière. En réalité, le public va uniquement dans la salle d'audience. Et donc peut assister au procès, mais uniquement du côté de la salle d'audience, ce qui, si on continue à réfléchir sur ce point, pose d'autres questions qui sont qu'on sait que les détenus, les personnes détenues, par exemple, quand il y a des audiences, c'est traditionnellement un moment où ces personnes peuvent avoir un contact avec leur famille. Voir leur famille, les entreapercevoir, eh bien là, ça n'est plus possible. Donc, vous voyez qu'il y a des effets en chaîne qui sont liés, à la fois des effets qui peuvent être des effets de nature juridique, et puis des effets de nature plus qui ont plus trait à la question de l'humain, et qui sont liés à ce dispositif technologique qui a été introduit probablement sans complètement percevoir tous ces effets possibles et avéré, et qu'on constate à présent.
Merci beaucoup, Laurence Dumoulin. Une dernière question pour vous, Jacques Lévy-Véel. Comment éviter, d'une manière générale, en distanciel ou en présentiel, la création d'inégalités entre les judiciables ?
Alors, évidemment, je n'ai pas une réponse complète à ça. C'est de mon petit point de vue de chez Question Analytics, une des réponses, c'est un élément que vous avez... soulever un peu plus tôt dans les questions sur l'accès à ce type d'outils comme on fait chez Question Ethics, comme des plateformes à disposition de tous les justiciables. Il faut quand même réaliser que le droit, c'est un domaine technique, même si n'importe qui au dîner peut donner son avis sur un procès en cours. Mais après, c'est quand même un domaine technique où déjà on fait des études. Donc, je pense que donner ce genre d'outils sur une plateforme publique, au contraire, accroîtrait les inégalités parce que on pourrait faire croire que tout le monde a accès à cette information, mais sauf que si on n'a pas les clés et les éléments techniques pour les comprendre, ben on va croire qu'on sait alors qu'on ne sait pas, ce qui est la pire des inégalités. Voilà, donc pour moi, la médiation par des professionnels du droit, c'est une source d'égalité, à condition que eux, les professionnels du droit, aient un accès équitable à ces ressources. Voilà, donc si des outils comme cette question éthique se développent, je pense que ça peut être une source de réduction des inégalités, puisque, comme j'ai eu l'occasion de le mentionner au début, ce qui est important, c'est d'avoir accès à une information, par exemple de la jurisprudence, mais d'autres sources d'informations, de l'expertise, comme Laurence l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont au procès une seule fois, ou un petit nombre de fois, on peut l'espérer, un licencié qui est salarié. Par contre, l'entreprise en face, ben, elle a une armée d'avocats qui est aguerrie à ça. Donc, si on peut partager l'information, ça peut réduire les inégalités. Je pense que des outils comme Question Ethics peuvent y contribuer.
Et merci à tous les deux d'être venus échanger avec nous sur Radio Campus Paris. Laurence Dumoulin, je rappelle que vous êtes chargée de recherche au CNRS et directrice du laboratoire PACTE à Grenoble. Vos recherches se concentrent sur la sociologie politique du droit, la justice et l'action publique. Et vous, Jacques Lévy-Véel, directeur de recherche à l'INRIA et fondateur de Keslo Analytics. Et avant de se quitter, il faut que je vous présente l'homme qui réconcilie les sciences et la philosophie au XXe siècle. Et oui, rien que ça, mesdames et messieurs, ce soir sur Radio Campus Paris, il s'agit bien sûr de Simon. Alors comment progresse la science, Simon ? De qui vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on va aborder Paul Feyerabend, un philosophe des sciences du XXe siècle, autrichien naturalisé américain. En 1975, il publie un ouvrage majeur qui s'appelle « Contre la méthode, esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance ». Alors déjà, avec un titre pareil, il annonce beaucoup. Et c'est vrai qu'une de ses thèses majeures, c'est de remettre en question l'importance de la rationalité, de la raison dans l'histoire des sciences. En un mot, pour Feyerabend, contrairement à ce qu'on pense habituellement, les plus grandes découvertes scientifiques n'ont pas été causées par la raison, par les raisonnements, par une méthode, par des règles suivies et appliquées. mais au contraire par des déviations, par des idées créatives, par du chaos.
Mais alors, il parle d'anarchisme, qu'est-ce qu'il entend par là ?
Eh bien, il a, semble-t-il, une certaine affinité avec les anarchismes politiques, mais ce n'est pas vraiment le cœur de ce qu'il décrit. Le terme d'anarchisme, pour lui, se rapporte davantage au dadaïsme, c'est-à-dire, au-delà du courant artistique, une attitude de pensée qui consiste à toujours subvertir les prétentions de la raison, de la réflexion, à toujours les placer face à un doute ironique. Et l'ambition de Feyerabend, c'est d'adopter cette attitude non seulement face à la politique, l'histoire, la philosophie, des enjeux sérieux, comme cela avait déjà été fait par d'autres avant lui, mais aussi et surtout face à la science, car personne ne l'a fait jusqu'à présent.
Et en quoi consiste son attitude de doute ironique ?
Avant tout, dans l'idée que l'histoire des sciences et des découvertes scientifiques est beaucoup plus complexe, riche, chaotique que ne le laissent croire les manuels d'enseignement scientifique. La science ne peut pas être séparée de son contexte historique. Il faut donc être prudent vis-à-vis de toute sacralisation de la science d'aujourd'hui. Aux yeux de Feyerabend, le savoir d'aujourd'hui peut devenir le conte de fées de demain, comme l'est devenue l'idée d'une Terre plate. A l'inverse, le mythe le plus risible peut devenir un concept scientifique majeur. Cela a été le cas de l'héliocentrisme, la thèse selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Pendant des centaines d'années, cette thèse n'avait pas eu de confirmation par l'expérience.
Mais justement, l'expérience, est-ce qu'il ne faut pas une méthode pour aborder les expériences ?
On touche là à l'aspect le plus critique de la thèse de Feyerabend. À ses yeux, et c'est fondamental, ce qu'on appelle les faits. Les faits scientifiques, les faits établis, n'existent pas indépendamment de certaines théories, d'hypothèses, de conceptions idéologiques qu'on explicite que rarement. Les faits ne sont jamais neutres. Il prend l'exemple de Galilée. Son héliocentrisme est au départ une théorie sans validation par les faits. Mais Galilée invente le télescope et grâce à lui peut appuyer sa théorie de faits visibles. Mais pour beaucoup à l'époque, un tel instrument ne vaut rien, n'a aucune légitimité. Feyerabend montre que l'importance que Galilée accorde au télescope est en grande partie liée au fait que ce télescope lui offrait les faits que Galilée n'avait pas eu jusqu'alors pour valider sa théorie héliocentrique. Et en définitive, si la théorie de Galilée s'est imposée historiquement, c'est en raison de critères qui n'ont rien de scientifique, les passions, les préjugés, la vanité. La méthode, les règles à suivre, tout cela n'est arrivé que rétrospectivement, pour lisser l'histoire des sciences. Mais il faut bien se garder, pour les scientifiques de l'avenir, de rester dans les clous d'une méthode. Le confus, le chaos, est essentiel dans le développement des théories. Toute théorie, d'ailleurs, commence par être confuse. Et parfois, ce sont les erreurs mêmes qui constituent les plus grands progrès. Ainsi, la découverte des antibiotiques par Sir Alexander Fleming en 1928 vient du développement de bactéries dans des boîtes oubliées. Il n'y a rien là qui relève de la méthode, des règles. Feyerabend cherche donc avant tout à insister sur l'importance de l'irrationnel dans l'histoire des sciences.
Et donc Simon, pour résumer, comment progresse la science ?
Eh bien, selon Feyerabend, la science ne progresse pas grâce à des idées précises, suivant très exactement une méthode définie à l'avance, non. La science est concrète, pratique, historique. Elle progresse en sortant du cercle de la méthode. Elle progresse en déviant, en créant, en innovant. Feyerabend écrit « Sans chaos, point de savoir. Sans une destitution fréquente de la raison, pas de progrès. » C'est pour cela qu'à ses yeux, on ne peut pas unilatéralement séparer la science et la non-science. Comme toute discipline, la science se nourrit de son contexte historique, des mythes, des contes, des récits d'une époque donnée. La science n'est pas terne, n'est pas uniforme. Et pour la faire progresser plus encore, il faut admettre et défendre en science la créativité, la contre-méthode, l'anarchisme.
Merci Simon, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez nous réécouter à tout moment sur radiocampusparis.org ou sur Spotify. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Toute l'équipe de l'Atome de Savoir vous salue, Jade Adil, Johanna Blin, Simon Veil, Vadim Yelkin et moi-même. On se retrouve le 21 avril pour une nouvelle émission de l'Atome de Savoir. Alors, à bientôt sur Radio Campus Paris. En attendant, restez curieux et portez-vous bien.